RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, Murrayfield, le pré-sacré du rugby écossais, va-t-il une nouvelle fois se transformer en cimetière des illusions françaises? Les Bleus, en tout cas, sont prévenus, n'ont pas l'intention de tomber dans le piège où l'on voudrait les envoyer, celui d'une équipe largement favorite en route pour le Grand Chelem. Cette expression dont il ne faut surtout pas prononcer le mot, c'est un peu comme dans Harry Potter. Surtout, quand vous dites Grand Chelem, vous croisez les doigts, vous fermez les yeux. Alors, comment faire pour conjurer le sort et battre ces diables d'Écossais à Murrayfield, là où aucune équipe française ne s'est imposée dans le tournoi depuis 2014? Eh bien, on tentera avec les poteaux d'expliquer le phénomène scottish, ses forces et ses quelques faiblesses. Il y en a tout de même. À quelques jours du choc d'Édimbourg, Fabien Galthié et son staff sont bien embêtés. Hein. Par qui remplacer Gabin Villière, le Français le plus virevoltant de ce début de tournoi et qui, malheureusement, vous le révélez la semaine dernière, a dû déclarer forfait pour une fracture du sinus. Faut-il faire confiance aux jeunes ailiers de la réserve ou décaler les hommes en place à l'aile? On étudiera les options. Et puis on s'intéressera également à quelques pépites annoncées de rugby français qui tardent à prendre toute la place que leur talent a annoncé. On pense à Demba Bamba ou encore à Jordan Joseph qui vient d'être appelé pour la première fois par le staff des Bleus. Pour débattre de ces sujets, les poteaux sont là. Denis Charvet, par exemple, tout guilleret à l'idée d'aller passer un week-end à Édimbourg.
Oh, quelle oxygénation.
Ah, ça fait longtemps que j'ai pu y aller. Hein.
Non, mais j'adore Édimbourg en plus. C'est un déplacement qui est super. Non, mais les Écossais sont tellement adorables et tellement accueillants que on s'y régale chaque fois. Et puis bon, avec un match à jouer quand même.
Ouais, ça fait longtemps que t'es plus allé en Écosse. Ça fait combien de temps que t'es plus sorti là?
Il y a deux ans, on n'y était pas.
Eh non.
Cause Covid. Et oui, ça fait quatre ans.
Eh ouais. Pierre-Laurent Gout de Midi Olympique est également avec nous aujourd'hui pour suppléer l'absence du patron Manu Massicard qui est encore une nouvelle fois en vacances, évidemment. Salut Pierre-Laurent.
Salut à tous.
Bon, Pierre-Laurent, tu seras aussi du voyage en Écosse?
Non, je serai à la rédaction, devant mon écran de télévision.
Puni.
Puni, on va dire. Voilà. Mais Denis a raison, c'est un superbe. J'ai eu l'occasion de le faire, c'est un superbe déplacement.
Et oui. Et puis, Julien Landry, lui non plus, ne sera pas en Écosse. Puni, comme Pierre-Laurent et comme moi. Pas de panse de brebis farcie, ni de tournée au scotch whisky qui sent la tourbe. Nous, on est puni, hein, Julien.
Ouais, mais il y a du top 14 ce week-end.
Je
remplace et Wilfried et Jeff Maturo. C'est quand même.
Eux aussi
sont double talent, quoi.
Double feignasse. Tiens, juste un petit mot d'ailleurs pour commencer. Le match aura lieu samedi à 15h15. Il va finir aux alentours de 17h15-17h20. Or, les matchs du top 14 sont programmés à 17h15. Donc, ceux qui voulaient voir le match à la télé et ensuite
sur vos stades, ils iront au stade, Christophe. Dans les stades.
Le téléphone, tu regardes sur le téléphone.
Ah oui, mais c'est pratique, c'est super de regarder.
Ah, je le fais moi.
Ah, mais je pense que Christophe, tous les stades à Clermont, à Lyon, à Pau, Racing, ils vont diffuser le match. Ils vont diffuser les matchs sur les écrans dans les buvettes. Ça va être une très bonne nouvelle pour les buvettes tous les clubs.
Voir sur le grand écran.
A priori, à vérifier, parce qu'au Racing, je crois que ça ne va pas se faire. J'ai vu un écho dans mon journal là-dessus qu'a priori, pas de diffusion à l'Arena match de l'équipe de France.
Évidemment, c'est compliqué.
C'est pas gentil.
Du coup, ils vont pas au stade, les gens. Ils vont vouloir regarder le match de l'équipe de France. Enfin, bref, c'est un petit peu débile. Tu aurais pu décaler une demi-heure ou pourquoi pas d'une journée.
Ouais, mais c'est le diffuseur.
Évidemment, le diffuseur est roi, on le sait. Allez, c'est pas grave. Aux alentours de 15h10, samedi prochain, que l'on soit dans le stade, derrière notre radio ou devant nos écrans, nous entendrons tous ceci. Scotland, ce chant sacré qui ne date pas des guerres anglo-écossaises du 14e siècle, mais plutôt des années 60. Tenez, écoutez ce que ça donnait en version originale, celle du groupe écossais, les Cowries, en 1967. Vous allez voir, c'est un peu moins sexy. On y est là, vous voyez pas le château.
Ouais, mais ça fait très
château, la tour, la lande. Le brouillard, la pluie froide qui s'abat sur la lande écossaise.
Ah, c'est la Highlands, hein, on y est.
Ah ouais, il manque plus que...
On est là, le film là, Braveheart, là, avec
Braveheart,
Wilson,
Braveheart. En bleu. Exactement. Voilà, ce chant donc adopté par le rugby écossais qui fut chanté à Murrayfield pour la première fois en 1990, au moment des hymnes nationaux et à la place, choking, de God Save the Queen. Alors évidemment, le Flower of Scotland a plus de saveur lorsqu'il est chanté en présence du 15 de la Rose. Malgré tout, messieurs, quelle émotion quand même, hein, quand on entend le son de la cornemuse retentir et que 60 000 écossais se mettent à chanter, Denis.
Ouais, c'est saisissant, mais c'est un peu... Il y a un parallèle à faire avec le Pays de Galles. Où c'est
Land of My Father. là.
Alors, c'est des mineurs, mais c'est encore des pays, des peuples quand même qui vivent à travers le rugby, qui sont
mineurs.
Les mineurs. Oui, ouais. Non, mais c'est un pays de mineurs.
D'accord.
Donc, je veux dire, c'est des pays de la dure, quoi.
C'est rude, oui.
Non, mais on le ressent dans leur chant, et à travers leur chant, on sent toute la ferveur d'un peuple, et c'est la même chose en Écosse.
Ouais. C'est lequel ton hymne préféré ?
Alors, moi, je suis partagé entre celui-là et celui du Pays de Galles, Land of My Father.
Voilà. Pierre-Laurent ?
Alors, je suis assez d'accord avec Denis. Mon hymne préféré, c'est Ireland Calls, moi, parce que
il
est plus entraînant. Mais après, où Denis a raison, c'est que Land of My Father est peut-être moins charismatique ou moins symbolique du tournoi des Six Nations, notamment pour les jeunes générations. Mais surtout, après Land of My Father, souvent en Pays de Galles, tu prenais la grêle. Alors que je suis d'une génération de jeunes, le match Écosse-France, il s'arrêtait après Flower of Scotland. Après, c'était le défilé des Français, on marquait des essais dans les années 90. Moi, le match était fini après la ligne.
Non, mais moi, j'ai eu la chance de débuter à Cardiff. Alors, dans l'ancienne Amps Park, qui était très vétuste, quoi, qui était juste avant, 10 ans avant qu'il soit démoli et reconstruit. Et c'est vrai que moi, j'ai le souvenir impérissable de cette rentrée sur le terrain où il y a une clameur. Voilà. Et puis derrière, Lynn m'avait toujours impressionné. C'était ma première sélection et cette ligne, ça m'avait.
Ça reste toujours un.
C'est un moment
à vivre pour les joueurs et pour les spectateurs. Julien, tu m'as pas donné ton avis.
Mais moi, je pense que c'est le plus bel hymne d'une année sur deux. Quand tu vas à Murrayfield, quand même, quand les cornemuses s'arrêtent et que tout le public chante
a cappella,
je pense que n'importe quel joueur de rugby a les frissons et ça nous rappelle tellement tous nos souvenirs d'enfance du tournoi des 5 nations, des 6 nations. Et d'ailleurs, quand j'ai vu Melvin Jaminet avant le début du tournoi, je lui ai dit. Toi qui vas continuer ta découverte finalement de tous les stades, parce qu'il découvre encore plein de stades, Melvin Jaminet, il m'a dit évidemment la semaine avant d'aller en Écosse, ça va être particulier parce que c'est probablement le chant que les gens connaissent le plus, en tout cas, pas les amoureux du rugby, et ça reste quand même un chant à Murrayfield tellement particulier que ça te prend tellement au trip que je pense qu'une année sur deux c'est le plus beau et l'autre année c'est Land of My Father.
Est-ce que ce genre d'ambiance, messieurs, peut avoir de l'influence sur l'équipe qui se déplace, l'engouement d'une enceinte, les chants? Est-ce que ça peut impressionner des jeunes joueurs? Tu en parlais il y a quelques instants, Denis. Toi, tu avais été marqué.
Totalement, parce que c'est encore une fois. J'ai l'impression que cette ferveur elle est différente dans tous les stades, mais en Écosse, c'est particulier. Ça a toujours été particulier. Il y a quand même tout. Quand on parle de 16e homme, il existe. Il existe vraiment. Et d'ailleurs, depuis quelques années, où on voit le niveau des Écossais c'est amélioré, on voit toute la difficulté de s'imposer là-bas.
Il y a deux ans, les Français avaient été cueillis, Christophe, par cette ambiance. Les Français restaient sur 3 victoires contre les Gallois, l'Angleterre, les Italiens. Et cette jeune équipe avait été à Murrayfield avec ses chants, l'ambiance. Elle était un petit peu jeune. Et je crois qu'elle avait été mangée un petit peu par toute l'émotion qu'il pouvait y avoir. Ils avaient d'ailleurs complètement raté leur début de match avec le carton jaune de Cross après 5 minutes, la blessure de Chat lors de l'entraînement, le chaos de Ntamack, le rouge de Hawass. Je crois qu'il y a 2 ans, très clairement, les Français avaient été pris par l'ambiance.
Et tu as raison, c'est qu'ils l'avaient évoqué d'ailleurs après le match.
Exactement.
Je crois que c'est Fabien Galtier qui avait évoqué justement l'arrivée en bus à Murrayfield qui avait impressionné tout le monde, même lui.
Et donc je pense que voilà, ils ont moins ce souvenir-là pour ce match-là. Ils savent comment le préparer, mais clairement, s'ils ne sont pas préparés, ils peuvent être pris un petit peu par l'ambiance qu'il peut y avoir en Écosse. Hein.
C'est pour ça que ce que tu disais sur Melvin Jaminet, Julien, est très intéressant et ça est presque un peu inquiétant.
Et oui.
Parce que on a des souvenirs. Voilà, il y a 2 ans, j'allais le citer, l'équipe de France sort de son match à cause de ce fameux 16e homme. J'ai le souvenir aussi d'un match au Pays de Galles où c'est Pascal Papé qui est capitaine et l'équipe de France rate aussi complètement son entame et à la demi-heure de jeu, on n'est plus dans le match déjà. Souvent, et maintenant avec cette Écosse qui est beaucoup plus dangereuse qu'il y a 10 ou 15 ans où le match s'arrêtait après l'hymne. Et ce que tu dis sur Melvin, donc c'est à la fois intéressant mais à la fois inquiétant parce qu'il appréhende déjà quelque part cet avant-match. Et pour le coup, je te rejoins aussi, c'est quand les Écossais chantent, c'est les meilleurs au monde. Ouais. Donc ça peut être très très impressionnant.
Alors c'est vrai que souvent, comme tu le disais Pierre-Laurent, le match arrêté après les hymnes parce que pendant des années, pendant des décennies, même l'Écosse n'avait pas d'équipe pour rivaliser. Mais bon, ça a bien changé ça. Et on a quand même continué à avoir ce sentiment de supériorité. Rappelez-vous, l'année dernière, quand les Écossais sont venus à Paris, tout le monde ne parlait que du Grand Chelem. On va leur en mettre 20, on va leur en mettre 30. Et eux, ça les avait motivés en retour. Hein, ce sentiment de supériorité, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on l'a encore ou que justement le staff de l'équipe de France a bien compris le danger et justement évite de faire des spéculations sur la prochaine victoire?
Alors c'est vrai Christophe, pardon de parler en premier, mais que tu as raison notamment sur les supporters qui ont 40-50 ans, on a du mal à avoir peur d'un match face à l'Écosse, parce que on a nos souvenirs, qu'on y soit allé ou devant notre télé, ou au final le 15 de France en sortait, que ça soit au Parc des Princes, au Stade de France ou à Murrayfield, on s'en sortait au final. Mais depuis quelques années, c'est plus du tout le cas, et donc je pense que les jeunes et le staff est bien au courant, et ça va être on le voit bien tout le discours de Fabien ou de Raphaël Ibanez qui fait très attention à ça dans ses préparations, justement d'éviter de tomber dans ce piège et dans cette sorte de qu'on soit hautain vis-à-vis des Écossais, ce qu'on avait été un peu aussi il y a deux ans et l'an passé.
Mais ça vient surtout de la qualité de cette équipe d'Écosse qui a beaucoup progressé et qui aujourd'hui rivalise avec toutes les grandes nations. Regardez, ils ont battu l'Angleterre. Le Pays de Galles.
Ils sont sur 3 victoires en 4 matchs.
Hein, le Pays de Galles a gagné, mais dans la difficulté, en retrouvant certaines valeurs. Mais cette équipe d'Écosse, pour moi, ça va être un match très, très compliqué à aborder. Parce qu'en fait, elle ne sourit pas et elle a un ascendant psychologique du fait qu'elle ait gagné les deux dernières rencontres, que ce soit en Écosse ou au Stade de France l'an passé. Mais n'oubliez pas qu'on a perdu quand même.
Je pense qu'il y a toujours un sentiment de supériorité quand même. Pour le coup, il n'y a aucune province écossaise qualifiée en phase finale de Coupe d'Europe. On parlait des Irlandais, ils sont tous là, le Leinster, le Munster. Donc tu sais que tu les affrontes et que c'est compliqué. Alors après, c'est sûrement un défaut, mais je pense que tu as quand même toujours se dire les Écossais. À part Finn Russell et Stuart Hogg qui sont capables de coups d'éclat, je pense que les Français sont quand même supérieurs. Alors c'est sûrement le plus gros des dangers, mais pour le coup les provinces écossaises sont à des années-lumière de toutes les provinces irlandaises, même les équipes françaises ou anglaises.
Ouais, je voulais juste revenir sur ce que disait Denis. J'ai l'impression que semaine après semaine, chaque fois qu'on a un adversaire, c'est l'adversaire le plus difficile du tournoi. Sauf peut-être l'Italie. Tu nous as pas dit ça quand même.
Non, j'ai toujours dit que tu
nous diras ça la prochaine fois pour le Pays de Galles.
Écosse, je la crains parce qu'elle a d'énormes individualités, qu'elle a un jeu collectif qui est mis en place, et que maintenant, à l'inverse, il y a 3-4 ans où on disait allez, on va jouer les Écossais, mais on était presque sûr qu'en fin de match on gagnerait. Aujourd'hui, tu n'as aucune certitude quand tu affrontes l'Écosse.
Ouais. Oui, je suis assez d'accord avec Denis parce que pour avoir vu attentivement Écosse-Angleterre, moi les Écossais m'avaient impressionné. Ils m'ont presque un peu déçu de perdre au Pays de Galles lors de la deuxième journée. Je travaillais donc je les regardais que d'un œil, mais c'est vrai que lors d'Écosse-Angleterre, ils m'avaient impressionné. La qualité de leur jeu était vraiment impressionnante et je les voyais bien nous titiller et pourquoi pas se battre pour la victoire finale dans le tournoi.
Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a plein de joueurs écossais qui jouent avec les Lions qui sont titulaires. Je parle de Hogg, il y a le demi-mêlée, le Russell, il y a plein de joueurs qui sont en train de rivaliser avec leurs collègues britanniques pour prendre des places dans le jeu.
Alors, si on devait faire un classement des équipes britanniques, comme ça au moins on va savoir vraiment ce que tu en penses de cette équipe d'Écosse. Entre l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande,
je mets l'Irlande en premier aujourd'hui parce que.
L'Irlande en premier, d'accord.
Par rapport à leur pragmatisme. Aujourd'hui ils sont au-dessus et après l'Écosse rivalise avec l'Angleterre pour moi aujourd'hui.
Moi je les mets même légèrement au-dessus de l'Angleterre cette année sur cette édition. On l'a vu lors de l'Écosse-Angleterre, il faut tirer les enseignements du match.
C'est pas parce qu'ils ont gagné, mais en même temps ils sont dans le match quand tu mets un podium, tu peux les mettre derrière l'Irlande.
Et puis comme dit Denis, il y a des joueurs de qualité. Amish Watson, le troisième ligne, le numéro 7 aux cheveux longs. Van der Merwe qui nous avait marqué l'essai en fin de match qui avait privé la victoire des Français. On connaît tous évidemment Russell, Stuart Hogg. Ils ont aujourd'hui une vraie mêlée qui tient la route. Et puis contrairement aux Irlandais qui avaient à savoir qu'il fallait faire la guerre, les Écossais ne vont pas vouloir faire la guerre sur les zones de ruck et ils vont mettre du rythme en permanence. Et ça va être un jeu totalement différent où il va falloir courir, tenir des très longues séquences de jeu, du large-large. Ça va être un match totalement différent des Irlandais, mais c'est une équipe qui a beaucoup beaucoup de qualités dont il faut se méfier clairement.
On peut dire que l'Irlande est en courant continu, et eux ils sont alternatifs. Donc c'est un peu la comparaison.
Nous aussi, hein. Nous on est un peu sur l'alternatif.
On est capable de
début de match incroyable, puis d'un seul coup, paf, t'as une panne de courant et puis tu reviens sur la fin. Donc voilà, il faut arriver à bien se mettre dans la bonne prise pour ce match entre la France et l'Écosse. L'Écosse qui est d'ailleurs la seule nation majeure du rugby que la bande à Galtier n'a pas battue depuis que Fabien Galtier est à la tête de la sélection.
Il n'a pas battu durant le tour.
oui, tu as raison, oui, dans le tournoi, oui, parce qu'ils les ont battus lors de la Coupe d'automne des Nations. L'Écosse, on le disait, qui est donc en progrès depuis plusieurs années, comme l'Irlande, son rugby, c'est structuré, il y a de bons jeunes qui sont formés. Vous pensez qu'elle peut arriver à faire justement aussi bien que l'Irlande dans les années à venir? Est-ce que le réservoir de joueurs est aussi important? Est-ce que la place du rugby en Écosse est aussi importante? Parce que bon, il y a surtout le foot en Écosse. Hein.
Non, voilà, tu le dis en posant la question, mais ils ont une bonne génération. Je crois que c'était Julien qui le disait, ou Denis, ils ont actuellement une bonne génération. Ils se sont structurés comme les autres nations britanniques, avec c'est la fédération qui prime avant tout sur les franchises ou sur les clubs. Mais Christophe, tu as raison, ça reste un sport vraiment de niche en Écosse, le rugby, un sport encore un peu d'école, un peu dans la vieille tradition. Mais ils ont su justement profiter de ce petit réservoir, ils arrivent à en tirer la quintessence, et franchement, le boulot de la fédé écossaise est à relever.
La clé, ça serait qu'ils trouvent une vraie province, une vraie équipe de clubs. Où, tu
ils ont déjà quand même Glasgow. Ou...
C'est vrai, mais plus performant que où tu pourrais, un peu comme le Leinster ou le Munster, ouais, regrouper tes meilleurs joueurs sur toute la saison et préparer. Parce que, regarde, Russell, il est avec en France. Hogg, il est du côté de l'Angleterre. Une vraie province forte.
Ils n'ont pas les moyens.
Exactement. Mais c'est ça qui leur manque aujourd'hui pour franchir un cap, c'est d'avoir une province où ils sont là toute l'année et tu peux avoir un vivier derrière à faire travailler et performer aussi en Coupe d'Europe, parce que performer en Coupe d'Europe, c'est aussi pas la garantie, mais l'assurance peut-être de faire des meilleurs tournois que ce qu'ils peuvent faire en ce moment.
Après, ils sont forts en arbre généalogique aussi. Hein.
C'est vrai.
Tout le monde a un Écossais dans son arbre généalogique. Mais c'est un ancêtre.
Julien le sait mieux que moi. Le capitaine actuellement de l'équipe d'Écosse des moins de 20 ans et joue à Montpellier.
Oui, ouais. Exactement. Voilà.
Donc exactement, le truc. Ils arrivent toujours à trouver. Goût, a priori, t'as pas d'ancêtre écossais. Hein.
Non.
T'en sais rien.
Tu vas chercher un peu loin. Ça se prononce pas de la même façon, peut-être. L'Écosse qui a franchi des caps. Ce matin, je disais dans Midi Olympique, ce très bon journal, n'est-ce pas, monsieur Gou, Amish Watson qui disait on n'avait plus gagné contre l'Angleterre avant 2018. Depuis 10 ans, on se vivait comme une équipe en progrès, mais toujours incapable de gagner ces matchs si intenses. Depuis ce match, cette victoire incroyable, nous avons réussi à franchir un cap. Nous avons réussi à prendre la main sur des adversaires supposés plus forts. Notre confiance en fut accrue. Souvent, ça se joue sur un petit.
Passé, c'est un mauvais choix de Brice Dulin.
Oui.
Sinon, tu gagnes le match. Mais après, oui. Mais encore une fois, ils sont toujours au contact. Quoi. Voilà, avant, ils pouvaient lâcher prise. Maintenant, ils ont cette confiance qu'ils n'avaient peut-être pas par le passé. Mais j'en reviens toujours quand même au point de départ. C'est la qualité aujourd'hui de cette génération qui est beaucoup plus forte que celle d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils ont vraiment des top joueurs, des leaders de jeu qui font la différence dans les grands matchs.
Très bien. Bon, mais à part ça, c'est quand même l'Écosse. On va les taper, non, les gars?
alors, si tu regardes notre partenaire Winamax, la France est cotée 1,40 et l'Écosse à 3,20. C'est quand même incroyable.
Ah ouais.
Ouais, après, vu totalement
ton partenaire à toi, ouais.
Vu nos résultats à la radio. Vu nos résultats, c'est pas mon partenaire, il me coûte celui-là.
Non, mais Denis, vu nos résultats, c'est normal qu'on soit vraiment favori.
Ah non, moi je pense pas qu'en Écosse à 3,20, je trouve ça. Mais bon.
Ah, Denis, il va mettre une petite pièce sur les
Écossais. Non, mais c'est pas ça. C'est que je pense qu'on n'est pas favori dans le sens où on va gagner à tout prix, quoi. Ça va être très, 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 très compliqué.
Mais alors, c'est des cotes qui ont lieu uniquement en France ou en Écosse?
Ah,
c'est la même chose. C'est en France.
C'est en France, c'est les cotes françaises.
J'aimerais bien voir. Ce qu'on dit quand même de l'autre côté de la Manche. Hein. Je ne suis pas complètement convaincu. Alors, cette équipe de France, justement, il y a évidemment beaucoup de grands joueurs, même s'il y a un absent majeur, un garçon qui nous a quand même régalé durant les deux premiers matchs, c'est Gabin Villière. On le disait la semaine dernière, il a été victime d'une fracture du sinus, donc il est forfait pour ce match. Et il va falloir le remplacer. Alors, c'est vrai qu'on a deux ailiers d'exception avec Penaud et Villière, mais derrière, le réservoir, Julien, il n'est pas énorme. Et les jeunes, il y a Teddy Thomas, mais il est pas encore en état.
Il sera pas encore là.
Et derrière, c'est pas non plus. Il y a pas pléthore. Lebel, on pensait que il pourrait peut-être faire la maille, mais finalement, on se rend compte qu'il est pas non plus peut-être au niveau.
Encore, il a été bon
autres.
Ce week-end. Je trouve qu'il a fait un bon match à Pau. Non, mais c'est vrai que. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la solution que tout le monde envisage, c'est de décaler peut-être Gaël Ficou sur l'aile, ce qui est peut-être la tendance forte en tout cas de ce début de semaine. Gaël Ficou qui a déjà dépanné sous l'air Galtier sur sur ce poste d'aile. Alors après, il va falloir recomposer le centre. Mais c'est vrai que derrière Damien Penaud et Gabin Villière, il y avait peut-être Teddy Thomas qui était peut-être le plus proche de tous. Mais c'est vrai que là, il y a Aymeric Luc, le jeune ailier de Toulon, mais qui a très peu de sélection. Il y a Mathis Lebel qui pointe le bout de son nez, mais qui a du mal à franchir le haut niveau. Il y a Taofi Fenois, le joueur du Racing. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucun joueur qui se dégage pour dire une certitude de savoir qui c'est qu'on va mettre à l'aile ce week-end. Et c'est pour ça que Ficou est peut-être la solution que le staff des Bleus va privilégier.
La certitude, c'est d'avoir de l'expérience. L'expérience, elle s'appelle Bakatawa, avec Ficou à l'aile sur les ballons hauts, qui va être très, comment dire, très performant, comme il est souvent. Et je ne vois pas comment il y aurait une autre composition d'équipe.
Donc, alors, toi, tu dis Ficou à l'aile.
Et Bakatawa.
Et Bakatawa qui intègre le centre de l'équipe
de
France.
Avec Moefana.
Et encore une fois, il faut faire attention parce que Fabien Galthié et son staff sont très attachés aux derniers entraînements. Donc je pense qu'il y aura Pierre-Laurent, il y aura un entraînement.
Et au dernier match, est-ce qu'ils sont attachés au dernier match aussi, celui qu'a fait Vakatawa ce week-end? Ils sont attachés à ça.
Vakatawa a fait une seconde mi-temps qui était très intéressante.
Très intéressant. Voilà. Alors moi, je mets un peu plus d'incertitude que vous. Voilà, on a comme je suppose à la rédaction des RMC, on a cherché à gratter le maximum d'infos là-dessus. Ce qui est valide ton constat, Christophe, c'est qu'a priori, ça sera pas un pur ailier qui sera à l'aile pour remplacer Gabin Villière. Mm-hmm. Donc Gaël Ficou apparaissait au départ. Voilà, d'après ce qu'on a su, c'est au départ comme le grand favori, mais le retour de Danty en fait le groupe change un peu la donne, parce qu'a priori le staff samedi se posait la question, de remettre la paire de centres Danty Ficou, qui est celle qui avait joué contre la Nouvelle-Zélande avec le succès que l'on sait. Ça permettait d'amener de l'expérience, et Ficou est très important dans la défense et aussi il rassure ses jeunes partenaires. Et ce qui est sûr, c'est que Moefana, a priori, sera sur le terrain, mais peut-être positionné...
Peut-être à l'aile. Donc c'est lui qui serait mis à l'aile. Alors.
On nous avait dit, et après, au bout d'un moment, on est obligé de raccrocher les téléphones, que tout dépendait aussi de la prestation de Virimi Vakatawa. Et vous m'auriez appelé à la mi-temps, je vous aurais dit c'est joué. Et c'est vrai que ce que dit Denis, le constat de Denis est très vrai, c'est que la deuxième mi-temps de Vakatawa hier, face à Bordeaux...
On l'a revu faire du Vakatawa.
Voilà, on l'a revu faire du Vakatawa, amener des choses, et on se dit qu'il peut servir Moefana dans de bonnes situations, et Ficou a déjà joué à l'aile, et sur les ballons aériens. Donc au final...
Non mais moi je pense que c'est un petit pari, mais c'est pas un gros pari non plus de mettre Vakatawa. C'est pas un gros risque de le mettre, sachant que le garçon va être motivé, va avoir les crocs comme on dit. Mais
je sais pas, moi j'ai quand même l'impression, c'est peut-être une impression personnelle, mais je le sens un peu sur la retenue quand même.
Oui,
alors c'est vrai qu'il a été longtemps blessé ces derniers temps.
Alors lui, il avoue qu'il a eu du mal à revenir de ses blessures.
Voilà, il a eu des soucis au genou qui l'ont enquiquiné, pas très grave, mais voilà, récurrent exactement, et qui l'ont pas mal enquiquiné cette année. Donc
son dernier match en équipe de France, c'était à l'Écosse justement.
Le problème, c'est un garçon qui a besoin d'être à 100% de ses moyens. Donc, effectivement, si la machine un peu déraille avec des problèmes aux genoux, c'est quand même, les genoux, c'est quand même très, très, très important pour le derrière. Quoi. Ouais. C'est-à-dire, donc, il a avoué, il a dit qu'il revenait petit à petit, mais j'espère que moi, j'aimerais bien le voir.
Ouais, bon, on rappelle qu'il y a un an, c'était un homme indispensable du 15 de France.
C'était le meilleur franc-garçon de tout le monde. Hein.
Ouais. C'est dingue, c'est dingue. Ouais, bon, on espère évidemment qu'il va se remettre complètement.
Et d'ailleurs, juste Christophe, pour finir sur Gabin Villière, accepter Gabin Villière avec cette nouvelle réforme aussi de l'équipe de France, avec les 20 joueurs protégés, très peu de bobos pour l'équipe de France ce week-end, excepté Van Verberg, Ribadj et Astoy, mais qui sont plus des joueurs de complément pour la semaine, remplacés par Joseph, Azago et Boutier. On en parlera d'ailleurs Jordan Joseph tout à l'heure. La bonne nouvelle, c'est aussi que pour Fabien Galthié, ses cadres ont tous été ménagés ce week-end, et, excepté finalement Thomas Ramos qui a joué. Ils ont tous été protégés et ils sont tous frais pour attaquer le début de la semaine. C'est aussi les bonnes nouvelles de l'équipe de France, c'est que voilà, avec la protection de tes joueurs, t'as perdu que Gabin Villière sur les premiers matchs que t'as pu disputer.
Et le match d'opposition, il aura lieu quand, mardi ou mercredi?
Les deux, mon général. Il y a deux, d'après le programme que nous a donné le service presse de l'équipe de France, nous a communiqué, il y a deux, c'est bizarre, mais cette semaine, il y a deux entraînements à haute intensité, comme ils sont dénommés par Fabien Galthié, demain après-midi, mardi, et mercredi aussi après-midi.
Très bien. Gabin Villière, on sait pour combien de temps il en a. Est-ce qu'on peut espérer le voir face au Pays de Galles?
Oui, normalement, il postule pour le Pays de Galles.
Et parce que comme il y a eu la semaine de repos après l'Irlande, là, cette semaine-là, et après, il y aura encore semaine de repos la semaine prochaine avant d'affronter le Pays de Galles. Donc, Gabin Villière, lui, espère pouvoir postuler pour le Pays de Galles, oui, clairement.
Très bien. Nous avons hâte de voir ce que va nous sortir de son chapeau notre ami Fabien Galthié, donc pour la composition de cette équipe appelée à affronter l'Écosse ce samedi. Un tout petit mot du cas de Tani Vili, le Clermontois qui était dans la première liste de Galtier, mais qui en a été écarté a priori en raison de problèmes de conduite, non pas avec les Bleus, mais avec son club de Clermont. Gibbs l'a sanctionné. Galtier n'a pas voulu aller à contre-courant de la décision du manager. En tout cas, on voit que l'entente entre le staff de l'équipe de France et les clubs est parfaite. Hein. Ouais, là, en ce moment, il n'y a rien à dire.
Bravo, Fabien. Ouais. Bravo, Fabien.
Bon. Je crois que Fabien et Raphaël ont mis en place une charte et notamment sur un code de conduite très strict. À partir du moment où un joueur fait un petit écart, il est sanctionné.
C'était quoi un petit écart, on sait ou on sait pas.
Écart de conduite en fin de semaine avec Marvin O'Connor. Mais ouais, pas plus de précision de la part de la SM.
Il faut gratter, je vais bien savoir ce qu'ils ont.
Denis, on va dire que ça s'est passé un jeudi soir, qu'ils ont un âge à être étudiant. Voilà.
On va pas leur reprocher de trop quand même.
Si on peut même
plus faire deux
mi-temps avant les matchs, franchement, c'est.
Non, mais du coup, il faut assumer, il faut être à l'entraînement le lendemain matin.
Ah oui, c'est ça, c'est qu'ils sont pas allés à l'entraînement.
Juste une petite coin, je sais.
Avant de nous quitter, messieurs, un mot quand même concernant le jeune troisième ligne Jordan Joseph, champion du monde, double champion du monde avec les U20, dont on avait beaucoup entendu parler à ses débuts. Hein. On rappelle qu'il avait été transféré de Massy au Racing, et puis il avait un peu disparu des radars, avait subi la concurrence rude évidemment au Racing. Et là, il est parti à Pau, il semble avoir retrouvé toutes ses qualités, il est appelé pour la première fois. Comme quoi, il ne faut peut-être pas aller tout de suite dans un grand club quand on a 20 ans. Et on avait beaucoup entendu parler de lui. Rappelle-toi, Denis,
il était double surclassé double champion du monde.
Je pense qu'il a mal vécu le fait qu'il a été trop mis en avant trop tôt, avec les espoirs qu'on avait en lui, qu'on avait misé sur lui. Et à juste titre, d'ailleurs, parce que c'est un joueur incroyable, et il le prouve aujourd'hui, il est énorme avec son club. Mais tu as raison, ça lui a fait du bien. Alors, je ne sais pas si ça a été sa volonté de changer de club, ou c'est le Racing qui l'a poussé à partir. En tout cas, les faits...
Il est toujours sous contrat avec le Racing. Je crois que c'est un peu un mélange. Tu as raison, Denis, il a eu des petits soucis. La concurrence était très élevée avec Tanga. Il y avait encore, au début du Racing, il y avait encore Anthony Classen en 8. Donc,
Même pas GIF, en plus. Il n'était pas considéré comme un GIF parce qu'il était trop jeune.
Voilà, il n'a pas fini sa formation. Et par contre, ce qui lui a fait du bien, c'est qu'il a retrouvé à Pau Sébastien Piccheroni, qui était son sélectionneur dans l'équipe des moins de 20, et qui sait le prendre, qui sait parler pour le coup aux jeunes, parce que et cette nouvelle génération qui ont des codes que des fois d'anciens entraîneurs ont du mal à décoder. Et Sébastien Piccheroni a su le relancer parfaitement. Le Racing garde un œil quand même sur lui, parce que même s'il va rester à Pau l'an prochain, il est toujours sous contrat avec le Racing, parce que c'est quand même une sacrée pépite.
Tu as en province, on a moins le boulard qu'au.
Non, mais il y a moins la pression du résultat à Pau qu'au Racing. S'il rate un match, il ne retrouve pas frigo la semaine suivante. Je pense qu'il est aussi plus serein dans la manière de préparer les matchs.
L'environnement, ça joue beaucoup. Donc,
il doit être tellement bien dans cette belle ville de Pau. Je pense qu'il peut être heureux là-bas. Parce qu'il n'a que 21 ans. N'oublions pas qu'il est très très jeune.
Hein. Il est tout jeune, effectivement. On avait entendu parler de lui. Il avait à peine 17 ou 18 ans.
Oui, 17 ans. 17 ans. Il était double surclassé en moins de 20. C'est incroyable.
Il faut le retrouver dans un an.
Incroyable joueur. Très bien. Tiens, si on se remettait un petit coup de Flower Scotland, messieurs. Pour nous mettre dans l'ambiance quand même. Parce qu'on y arrive là. On y arrive. Ce sera samedi. Écoutez ça, c'est magique. C'est magique, Flower of Scotland, et ce sera donc samedi, coup d'envoi du match 15h15, donc soyez à l'écoute un petit peu avant si vous voulez écouter l'hymne écossais repris en chœur par les 60 000 supporters de Murrayfield.
Soyez avant, il y aura un avant-match.
Ensemble, mon Denis, parce que moi je serai en studio, toi tu seras Murrayfield.
Templier.
On ne sait pas dans quel état sera Denis dans l'avant-match, mais il y aura un avant-match.
L'avantage, c'est qu'à Édimbourg, il n'y a pas Nounours pour faire les avant-matchs.
Il a plus l'âge d'être étudiant, Denis. Pardon, Denis, mais tu n'as plus l'âge d'être étudiant.
Absolument, je prépare les matchs, moi.
Merci, messieurs, à la semaine prochaine. Bon match, évidemment, donc samedi, entre l'Écosse et la France.
Allez, les Bleus.